voix nue. Nous réécoutons cette semaine la rencontre d'Arnaud Laporte avec Jean Rochefort, qui vient de nous quitter. Rencontre enregistrée au domicile de Jean Rochefort en 2012. Ce soir, Blanche-Neige ne fait pas caca.
On reprend la route, Jean Rochefort. Vous nous avez raconté, dans l'épisode précédent, cette arrivée à Paris. Pas beaucoup d'argent en poche. Une tante qui vous héberge.
Oui, à Vincennes.
À Vincennes. Et puis voilà, le figurant de la Comédie française va rentrer au conservatoire. Et c'est vrai que cet épisode de cette série d'Avoix nues, j'avais envie que vous la consacriez à la fois aux amis et aux admirations, étant entendu que bien souvent vous admirez vos amis et que vous pouvez admirer des gens dont vous n'êtes pas l'ami. Jusqu'ici, je pense que tout le monde me suit.
Oui, oui.
Merci. Le conservatoire...
Même toi, dirait mon père. Pardon, excusez-moi.
Je vous en prie. Parler des amis et parler du conservatoire, ça nous renvoie à deux amitiés extrêmement anciennes et toujours vivaces, celles que vous entretenez avec Jean-Paul Belmondo et avec Jean-Pierre Marielle. Est-ce que, en les rencontrant, l'un et l'autre, vous vous êtes dit tout de suite, on est fait pour s'entendre? Comment ça s'est passé la première fois avec ces deux-là?
C'était extraordinaire, parce que j'étais un peu plus âgé qu'eux, et on faisait encore notre service militaire, et je m'ennuyais au conservatoire. Je trouvais ça conventionnel. Je me souviens qu'un acteur qui est devenu après sociétaire m'avait pris dans un coin et m'avait dit « Tu t'habilles trop mal, tu ne feras jamais carrière ». Moi qui suis toujours prêt à tout comprendre, j'étais complètement miné. Je me disais, il a sans doute raison. Enfin bref, les acteurs étaient en costume trois pièces et cravate, n'est-ce pas? Et je pars faire mon service militaire qui dure 18 mois et je reviens avec une autre promotion au conservatoire. Et je vois descendre les grands escaliers des individus absolument... inexplicable. Ça a été un choc pour moi. C'était une nouvelle école qui arrivait. Il y avait ce grand Mariel, extrêmement incongru, Crémer, qui était d'une élégance naturelle, qui était tellement élégant qu'il pouvait avoir les ongles noirs. Belmondo, qui était une chose... Enfin, Belmondo était l'image de ce qu'on attendait presque subconsciemment, une espèce de contemporanéité énorme par rapport à ce que nous étions tous. Michel Beaune, qui est mort jeune, Claude Rich et Annie Girardot. Voilà, c'était ce groupe-là, Pierre Vernier, que j'oublie aussi. Et je me suis dit, ça va aller. Avec eux, ça va aller. Ils m'ont adopté immédiatement. Et là est né... oui, comme une école d'une autre façon de jouer, d'une autre façon d'être. Nous étions détestés par Belmondo et moi, par un professeur qui nous conseillait de faire autre chose et qui s'en est excusé 20 ans après en nous disant qu'il avait abandonné l'enseignement à cause de nous. C'est incroyable. Belmondo était incroyable, il jouait d'instinct, il y avait un professeur qui l'aimait beaucoup, Georges Roy, et il jouait n'importe comment, ignorant même la situation, il savait pas. Et le prof a dit un jour, il mettait toujours sa main devant sa bouche comme ça, il a dit « Regardez comme il bouge cet animal-là ». C'est vrai qu'il avait cette espèce de liberté phénoménale du corps, de... cette espèce de sensualité un peu sauvage, enfin, merveilleux. Marielle, délicieusement fou, et notre amitié a donc perduré jusqu'à aujourd'hui. Et nous nous retrouvons maintenant dans les églises quand ils s'en vont. D'ailleurs, vous voyez, on se rassure avec la mort, puisque sur la couronne mortuaire de mon ami Bruno Crémer, j'ai fait mettre nos noms, Claude Rich, Pierre Vernier, Belmondo, Marielle, Rochefort. À bientôt.
Ouais, il y en a un autre que vous avez accompagné, comme cela aussi, c'est Philippe Noiret. Vous l'avez rencontré plus tard, lui ?
Alors, Philippe n'était pas au conservatoire.
Il était déjà chez Villard, lui ?
Il était déjà chez Villard. Et nous avons nourri tous les deux une passion pour Barbara. Et on se retrouvait dans un petit cabaret qui s'appelait l'Écluse. On se voyait. Lui avait un béguin pour Barbara et moi également. Nous étions presque adversaires. Et je ne peux pas en dire plus. Mais c'est comme
si,
ça que
même.
Nous sommes connus.
Vous pourriez en dire plus.
Oui, mais enfin, disons que je n'ai pas été le seul. Mais enfin, j'ai gardé un souvenir profond de cette admirable chanteuse et créatrice et tout. Bref. C'est assez discret, on
Très.
N'a pas compris,
bon,
rassurez-moi. Et alors, et après, nous revoyons et on jouait un mélodrame au cinéma de Maurice Cloche, je le connaissais à peine, et puis je jouais un personnage qui se déguisait et tout ça pour l'intrigue et tout ça. Et je suis déguisé en vieux monsieur et j'emmène une jeune femme dîner chez Maxime dans ce mélodrame. Et en montant l'escalier, je répète ma scène avec cette jeune femme et je lui dis, en faisant le mouvement de la brasse coulée, « Vous prendrez bien quelques écrevisses à la nage. » Et Noiret me dit, vous n'allez pas jouer comme ça. Je lui dis, si, monsieur Noiret. Ah bon? Et nous sommes devenus amis, là.
Alors, c'est vrai qu'il y a quelques très beaux films dramatiques que vous partagez avec Philippe Noiret. On pense notamment à ces deux films qui se suivent presque, hein, je crois, dans la filmographie de Bertrand Tavernier, Que la fête commence et L'horloger de Saint-Paul. Et puis aussi des films extrêmement fantasque. Qui êtes-vous, Polymagou, qui est un film extraordinaire de William Klein, en 66 ou 7.
Oh oui.
Plus près de nous, Les Grands Ducs. Alors là, c'est l'outrance potache et délirante. Quel type de partenaire était Philippe Noiret, comme comédien, là ?
J'ai revu l'autre jour un film que je n'avais pas revu depuis longtemps, qui s'appelle « Qui a tué Birgitta ?»
Laurent Henneman, hein, qui a réalisé.
Bon, mon cher, vous êtes vraiment une encyclopédie. Impressionnant.
82 ou 3, peut-être.
C'est bien possible.
Ouais.
J'ai revu une scène entre Philippe Noiret et moi où nous sommes sur un étang gelé. On tournait en Allemagne. Et c'est la dernière scène du film. Et j'avais tenu, parce que mon rôle l'exigeait, j'ai eu envie et le désir, je me disais, il faudra que je raconte ça un jour à un jeune acteur. Pourquoi doit-on être acteur ? J'ai tenu à le jouer en veston. Il faisait moins 20. Mais je trouvais que la silhouette était infiniment plus fragile et faible. On est un peu artiste aussi, les acteurs. On est peintre, là, tout à coup. On se peint soi-même en veston. Il y a un avion qui va atterrir sur le glacé et qui va emmener Noiret, je ne reverrai plus. Et je crois que je suis en face de 30 ans de prison ferme ou quelque chose comme ça. Et il y a une scène finale qui m'a serré la gorge, parce que je pense que notre amitié, notre complicité nous a rendus meilleurs. Et comme Noiret était mort quand j'ai eu l'occasion de la revoir, j'ai trouvé que c'était du travail bien fait et que c'était fort émouvant.
Et que l'amitié, pour le coup, avait une valeur ajoutée, là.
Oui, tout à fait. Parce que des gens qui font nos métiers et qui se sentent tout à coup de la même école, comme un peintre, comme un musicien, comme il y a quelque chose qui se durcit, qui devient ferme dans nos rapports. Et ça va jusqu'à une fraternité profonde. Moi, je ne croise à rien. Sinon à l'humus, ce qui est déjà pas mal, ça rend... Là aussi, on est utile.
Hein ? Même mort.
Même mort. Vous n'avez rien fait de votre vie, de l'humus. Ah oui, c'est déjà pas mal. Alors, de temps en temps, je vais dans l'église qui est près d'ici, Sainte-Clotilde. D'ailleurs, je me suis installé un peu pour n'être pas trop loin de Monique Chaumette, la femme de Philippe Noiret, auquel je téléphone souvent. Et je m'enferme dans cette église et je me concentre et dans la solitude de l'église l'après-midi, comme ça, je repense à nous, à ce que nous avons fait, tout ça. C'est courageux parce que personnes du quartier m'ont vu et une escouade est venue ici un jour pour me catéchiser.
Ah, c'est le danger de fréquenter les églises.
Une des grandes peurs de ma vie.
Et cette communion avec l'au-delà ou ces communications, Jean Rochefort, elles vous sont utiles aussi pour une femme pour qui vous avez une infinie tendresse, passion, admiration, dont vous m'avez souvent parlé, c'est Delphine Seyrig.
Je lui dois beaucoup. J'étais un acteur drôlatique. Et elle répétait à Tchekhov, c'était des nouvelles de Tchekhov qui étaient adaptées pour le théâtre. Et moi, qui étais donc un acteur drôlatique, elle a, au bout de quelques jours de répétition avec un acteur, elle a fait comprendre que ça n'irait pas. Et elle a demandé, je ne la connaissais pas, que son partenaire soit moi. À savoir, une des plus belles femmes possibles et imaginables, un talent extraordinaire. Et j'ai joué la première représentation avec elle en me disant, on va entendre des gens rigoler, c'était pas possible. Et les gens n'ont pas ri. Et je veux dire, ça a été, en plus du succès que ça a eu, ça m'a apporté beaucoup de confiance en moi. Et ensuite, nous avons joué 7 pièces ensemble. Et c'était une actrice qui jouait 200 fois une pièce, et c'était 200 fois une première. Après, je suis devenu très exigeant. Quand une actrice me disait, « Oh, j'ai mes règles, je ne vais pas être en forme ce soir », il est vrai que ma libido et mon imagination en prenaient un grand coup.
Ça place la barre très haute, de jouer très avec haut. Quelqu'un comme Delphine Seyrig, ou avec Philippe Noiret, ou avec d'autres.
Très haut, très haut. J'ai été vraiment très gâté comme ça. J'ai joué à un Jules Renard, qui était un essai de couleur pour la télévision, avec Annie Girardot. J'ai le document. C'est extraordinaire. La couleur est très étrange, très belle d'ailleurs. C'était fait pour des essais et ça a été projeté. C'était le pain de ménage de Jules Renard et ils l'ont passé. Et avec Annie Girardot, il y a eu ça dans le jeu. Dans la vie, nous étions copains. J'y ai d'ailleurs conseillé de ne pas être actrice.
De bons conseils.
Mais oui, parce qu'elle me dit... Ça y est, j'ai eu mon examen pour être assistante sociale. Qu'est-ce que t'en penses, Jean ? Je lui ai dit, on ne comprend rien de ce que tu dis. Tu te fagotes n'importe comment. Sois assistante sociale.
Un destin tout tracé.
Oui, voilà.
On ne fera pas d'émission concernant vos dons de divination.
Ah, ben voilà.
On va éviter ce sujet.
Après, je suis devenu un petit peu renifleur pour des gens plus jeunes que moi.
Mais pas ceux de votre génération.
Non, là, j'ai rien compris. Si, non, je savais que Belmondo et Marielle, Crémer, Rich, serait ce qu'il serait. Oui, je savais. Je m'en étais rendu compte.
Mais pas ni Girardot. Mais justement, une chose aussi qui m'intrigue, parce que je ne l'ai jamais vue, c'est un court-métrage que vous avez réalisé. Alors, on parlera dans une autre émission consacrée aux chevaux, à votre premier court-métrage, Rosine, qui a un lien avec ce monde-là. Mais il y en a un deuxième qui s'appelle « T'es fou, Marcel ». Et qui concerne un acteur immense, le comte de la Chesnée de la règle du jeu de Jean Renoir, à savoir Marcel Dalliot. Qu'est-ce qui vous a amené d'abord à le rencontrer, à faire un film avec lui, en tant que réalisateur, metteur en
scène?
C'est
ça. Oui, il dure 50 minutes quand même.
Ah oui, je crois que c'était.
Oui, non,
genre, c'est on lit court-métrage.
Oui, c'est 50 minutes, oui. Il était ce que j'aurais voulu être, c'est-à-dire une espèce d'insouciance permanente. Un désir de séduction vis-à-vis des femmes obsessionnelles et une folie quotidienne avec laquelle il vivait très agréablement en compagnie de son grand copain Pierre Brasseur, père de Claude. C'était un fou. Pierre Brasseur, par exemple, ayant été abandonné par sa femme qui était partie avec une autre femme, et qui avait ouvert un restaurant à Saint-Tropez. Dalio et Brasseur partent en commando pour se venger de cette infamie. Il rentre dans le restaurant, Pierre Brasseur, il monte sur une table et il excrète sur la table. Et ils sortent hurlant de rire, mais ils s'étaient trompés de restaurant. C'est une façon de vivre que je trouve magique. Moi, j'étais élevé dans une certaine rigueur, mais atteindre cela m'apparaissait absolument l'Himalaya de l'affirmation de soi-même. Vous comprenez ce que je dis ?
Parfaitement.
Et voilà, Dalio est devenu pour moi quelqu'un que j'admirais, avec ses désespoirs profonds, évidemment, un mal de vivre atroce aussi, mais toujours le fusil armé sur la gâchette pour l'incongruité phénoménale, quoi. Il faut bien remarquer aussi, et ça m'avait extrêmement intrigué, qu'à partir de 1932, 33, 34, à chaque fois qu'il entrait dans le champ d'un film, Gabin ou un autre, il foutait une tarte. Parce qu'il avait un type sémite, très constatable immédiatement, et ça racontait des choses quand même. Il jouait toujours les ignobles individus, pan, ta gueule. On lui foutait tout de suite une branlée. Et c'était très remarquable. Renoir, merveilleusement et pas innocemment, et Dieu sait si la presse a hurlé, lui fait jouer le baron dans la règle du jeu. La France de droite et d'extrême droite est folle furieuse. Un marchand de tapis qui joue un noble du terroir. Mais ils ont fait un chef-d'œuvre.
Il en a fait quelques-uns, Marcel Dalio. Je repensais en vous écoutant à La Maison du Maltais de Pierre Chenal, où il est absolument magnifique aussi. Enfin, œuvrons aussi pour les masses qui nous écoutent. Regardez des films avec Marcel Dalio, vous qui nous écoutez, parce que c'était un immense, immense acteur. Il y a plusieurs années aussi que vous me dites régulièrement, Jean Rochefort, il faut qu'on fasse une émission un jour sur Philippe de Broca. Alors, en attendant de la faire, on peut quand même évoquer ce cinéaste qui a beaucoup compté aussi dans votre parcours. On reparlera de Cartouche, qui vous fait accéder comme ça à un cinéma populaire et qui vous fait découvrir Les Chevaux. Ça fait quand même beaucoup pour un seul film. Mais il y a eu ensuite Les Tribulations d'un Chinois en Chine, il y a eu Le Diable par la queue, il y a eu Le Cavaleur. Noiret, votre ami Noiret a beaucoup tourné aussi avec lui, plus que vous, je crois.
Oui, je crois bien, oui.
Qu'est-ce que c'est que ce lien que vous aviez avec Philippe de Broca et pourquoi vous me dites il faut qu'on fasse une émission sur Philippe de Broca?
Parce que Philippe de Broca était, comment le résumer, une espèce de d'histrion, souvent pathétique, dans sa vie. Et je trouvais qu'il apportait au cinéma une espèce d'enfance. Cartouche, il a, je crois, 25 ans quand il fait Cartouche. Et qu'il réinvente comme ça, ou qu'il crée un nouveau cinéma d'époque, avec une espèce de liberté, chose comme ça. Qui me séduisait énormément. Et l'homme m'intriguait. Il y avait vraiment un choix du rigolo envers et contre tout. Ça, c'était très intéressant. Et Le Cavaleur, que j'ai revu récemment, est un film que j'aime profondément. Et je me souviens qu'au début, nous avions quelques accrochages, parce que j'ai remplacé Yves Montand, et il voulait que le personnage, qui était un cinquantenaire, qui courait après l'amour de toutes, avec une rapidité névrotique, je ne voulais pas qu'il fût uniquement drôle. Je trouvais qu'il y avait là un début de désespoir, de l'âge qui arrive et de l'envie de se... Alors, au début, on se disputait un peu. Et j'ai revu le film récemment, en plein air, dans la mairie de mon arrondissement. Eh bien, le public était réellement très touché. C'était vraiment très, très bien fait. Alors, Philippe de Broca, je trouve, est un peu oublié. Il a fait des films lamentables, mais on fait tous des bêtises. Mais il a appartenu à sa manière, infiniment moins intellectuelo-culturel que ses collègues de génération, mais il était aussi un pilier du changement, à sa manière, à sa façon.
La figure de Philippe de Broca me permet d'évoquer, pour conclure cet épisode de Nos Avoix Nues, Jean Rochefort, un autre aspect, alors très différent dans la série des admirations. Je me souviens très bien que la première fois que nous sommes rencontrés, c'était au XXe siècle, vous m'avez demandé très vite si je fumais. Peu importe la réponse, mais voilà, il y avait quelqu'un qui est près de vous, qui venait de mourir, sans doute, des méfaits du tabac. Il se trouve que Philippe de Broca est mort d'un cancer dû au tabac. Et que je sais que vous êtes très engagé dans la lutte contre le cancer. Et que je me disais que dans vos admirations, sans doute, devaient se trouver des médecins, des chercheurs. Vous-même, vous avez fumé comme un pompier, dit-on, jusqu'à 40 ans, quelque chose comme ça.
40 ans, oui.
Est-ce que dans les admirations, il y a ces figures-là de médecins, de chercheurs pour vous, Jean Rochefort?
Oui, d'autant que mon âge m'a de plus en plus rapproché d'eux. Et il y a des gens admirables dans ce monde-là. Il y en a d'autres aussi. J'ai un panel prodigieux du médical et j'en sors encore plus angoissé d'ailleurs parce qu'il y a des gens très bizarres. Ça peut être un commerce rentable à base d'incongruités, d'erreurs, de médicaments aléatoires, enfin bon bref. Mais il y a des gens, des vrais gens, qui ont choisi ce métier. Oui, c'est un choix presque, comment dirais-je, je ne dirais pas mystique, c'est excessif, mais c'est une vocation pour guérir, pour... Et je suis très sensible et très ami avec des médecins qui ne tiennent pas compte des classes sociales. Ce sont eux les vrais toubibs. Bon, là, moi, je vais me faire opérer très prochainement. Et mon attitude est ignoble, parce qu'étant un petit peu connu, je vais me faire opérer de la hanche gauche et je vais le faire en un mois, alors qu'en France, aujourd'hui, il faut attendre, si on n'a pas été un rigolo un peu public, il faut attendre au minimum un an. Alors bon, c'est vrai, vous me direz aussi qu'étant donné ma date de naissance, si on me demande d'attendre un an pour me réparer, il est évident que ce sont peut-être des frais inutiles. Donc, je comprends mon piston aussi, bien évidemment. Mais j'ai pour ces gens-là beaucoup d'admiration.
Dernière admiration, peut-être, je ne sais pas comment il faudrait le dire. Fascination, mais là, ça mériterait une émission entière, mais... Comme on arrive au terme de cet entretien, ce sera en quelques mots, et je voudrais pas que ce propos soit mal perçu. Admiration pour les femmes. Alors, pas mal perçu parce qu'il n'y a pas de généralité à faire avec le genre féminin, et je voudrais foisser aucune des femmes de votre vie, mais il y a quand même quelque chose de, un lien très fort vers l'autre sexe, Jean Rochefort.
C'est vrai. Là aussi, on va parler d'excréments.
Ah.
À 15 ans, je ne voulais pas admettre que les femmes excrétaient. J'étais sûr qu'elles avaient un transit différent et qu'elles ne se retrouvaient pas face à face et nez à nez avec ces odeurs immondes dans des petits endroits, genre pissotières d'école communale, ce que devaient subir les mâles. Donc on imagine l'innocence d'un garçon en 1945 qui admire tellement les femmes qui l'ont conclu, qu'elles n'ont pas les mêmes constitutions, les mêmes aberrations que le mâle subit, parce qu'il est un mâle, alors que la femme. Non, mais j'adore
oui,
toutes
oui,
ces
oui,
espèces,
bien sûr, bien sûr.
Il ne faut pas le prendre mal.
Ah non, bien sûr,
il faut pas
vous avez parlé
mal,
de mâle, vous parlez de
alors
femelle.
Que la femme était la grâce de mes dessins animés, la grâce de Walt Disney, enfin c'est... Elles étaient toutes Blanche-Neige.
Et Blanche-Neige n'excrète pas.
C'est pas possible.
C'est inconcevable.
C'est inconcevable. Alors voilà quels ont été mes débuts, avec un enthousiasme profond, qui a été de temps en temps un peu émoussé, Mais c'est vrai que le mystère de ces sexes différents, cette attraction extraordinaire. D'ailleurs, un de mes amis scientifiques m'a appris récemment, et ça explique bien des comportements, que le désir qu'on a de l'autre ne passe jamais dans le cerveau par le même, appelons ça un canal, parce que nous sommes béotiens, par le même canal que celui où il y a la réflexion. Donc vous entrez en désir sans pouvoir vous contrôler. Et ça, c'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'on retrouve notre fonction des premiers âges, ce que nous étions, pour que la reproduction puisse exister. Si l'homme des premiers âges disait « Oui, bon, mais enfin, elle est brune, moi j'aime pas trop », tandis que là, on perd toute réflexion, toute raison, et le désir est là, violent, qui vous obsède de jour et nuit, jusqu'à ce qu'il y ait le grand voyage ou pas. Mais le grand voyage, le merveilleux spasme, restera, comme le souvenir des plus grands moments de ma vie, avec une femme qu'on désire, qu'on aime, et ces voyages de 30 secondes sont extraordinaires. Le grand voyage.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre en 2012 d'Arnaud Laporte avec Jean Rochefort qui vient de nous quitter. À voix nue, prise de son Étienne Leroy, réalisation Anne Sécheret, Thomas Beau, coordination Claire Poinsignon. À voix nue s'écoute en ligne et ce podcast sur franceculture.fr.